Je vous remercie de m'avoir invité. Je ne redirai pas ce que Maurice Gardiol a dit ce matin. Et je me souviens très bien de Vivier, où j'étais là avec John Yoder. Et c'était un congrès qui m'avait beaucoup plu et marqué. Alors, la question à laquelle vous m'avez demandé de répondre, et je vais essayer de le faire différent que pas simplement un oui ou un non, c'est « Faut-il être différent pour témoigner du Christ ?» Faut-il être différent pour témoigner du Christ ? Alors, pour introduire la réponse, j'aimerais peut-être tout d'abord vous dire comment je comprends la question. Car certains n'en discernent peut-être pas toute l'importance. On peut en effet imaginer des chrétiens pour lesquels le fait de témoigner de Christ n'est pas une chose essentielle dans la vie. Ou d'autres encore qui voient dans leurs différences tout le témoignage qu'ils ont à rendre. Il n'y a rien qu'une communication. Ou d'autres encore pour lesquels le témoignage se limite à un certain nombre de phrases ou de clichés religieux qu'ils ont à transmettre à autrui sans que cela les engage personnellement. On peut encore imaginer d'autres attitudes. Ces chrétiens, d'habitude, ne se posent pas la question « Faut-il être différent pour témoigner du Christ ?» Pour eux, les choses vont, en gros, de soi, d'elles-mêmes. La question que vous m'avez posée recouvre, me semble-t-il, trois réalités qui devraient marquer toute vie chrétienne. J'aimerais dire cela dès le début, pour un peu clarifier les enjeux. Tout d'abord, elle révèle un réel souci d'autrui, qu'exprime la volonté de témoigner du Christ. Comme l'apôtre Paul le rappelle pour lui-même, la motivation de l'évangélisation doit toujours être l'amour. L'amour de Dieu nous presse, dit Paul. Nous savons que, selon le témoignage de l'Écriture, seuls ceux qui auront cru en la grâce de Dieu rendue manifeste en Jésus-Christ seront sauvés. Par amour pour ceux qui se perdent, dont nous étions, si nous avons accepté le Christ, nous désirons leur annoncer cette grâce. Face à cette responsabilité, certains chrétiens honnêtes s'engage dans un militantisme évangélisateur forcené, alors que d'autres, tout aussi honnêtes, tombent dans le découragement. Cette responsabilité est trop grande. D'où l'importance de réfléchir à la nature de notre témoignage. Que faut-il pour témoigner du Christ ? La question que vous m'avez posée exprime deuxièmement, me semble-t-il, en tout cas ainsi que je la comprends, le souci de la fidélité à Dieu. Car elle soulève le problème de la différence chrétienne. D'un côté, nous avons conscience que Dieu nous appelle à ne pas prendre part aux œuvres mauvaises de ce monde. Je cite là l'Écriture. Nous sommes le sel de la terre qui ne doit pas devenir fade en perdant sa différence, ou la lumière du monde qui doit se distinguer des ténèbres. Les chrétiens, dit l'Écriture, sont étrangers et voyageurs sur terre. Ils n'ont pas ici-bas de cité permanente, mais ils cherchent celle qui est à venir, la cité céleste. Je cite là des textes de la parole de Dieu. Mais d'un autre côté, nous savons aussi que le Seigneur nous a laissés dans le monde de manière très délibérée. Il l'a dit à son Père dans sa prière pour nous, juste avant sa mort. Le sel doit saler la terre et la lumière doit éclairer le monde. Comment être différent et pourtant garder le contact avec cette terre et ce monde, avec ceux auxquels nous désirons annoncer l'Évangile. Pour être de bons témoins, devrions-nous valoriser notre différence ou notre présence au monde ? Je pose des questions. Et comment pratiquement vivre l'évangélisation qui met obligatoirement l'accent sur notre différence ? Car elle consiste à annoncer un salut que l'autre, entre guillemets, ne connaît pas. Troisièmement, je discerne dans la question un certain malaise. C'est une question que nous ressentons tous si nous sommes honnêtes. Nos actes contredisent souvent nos paroles. Comment pouvons-nous alors être authentiques dans notre témoignage ? Ne risquons-nous pas de cacher certaines zones d'ombre de notre comportement, de notre vie, par souci d'efficacité dans le témoignage, dans l'évangélisation. Ou au contraire, notre souci de pureté, d'authenticité chrétienne, ne risque-t-il pas de stériliser notre témoignage au point de nous empêcher de parler ? Alors, faut-il être différent pour témoigner du Christ ? Alors, pour répondre à cette question, avec les deux soucis et le malaise qu'elle recouvre, après réflexion, je vous propose essentiellement un itinéraire scripturaire, biblique. On pourra faire allusion, peut-être, à certains faits historiques de l'histoire de l'Église ou à certains théologiens à la fin, surtout peut-être dans la discussion. Mais il m'a semblé important d'en rester au fondement. Et je développerai ce thème, la réponse que je proposerai, en trois points. Le premier, ce sera ce que j'appelle l'étrange silence des Épîtres. Le deuxième point, c'est un témoignage en situation. Et le troisième point, c'est le problème de la différence chrétienne. Parce qu'il me semble que les réponses ne sont pas aussi évidente quand on aborde les questions pratiques, quand on est dans la vie. Comment la parole de Dieu, avec son autorité, pose-t-elle le problème du rapport de notre différence et de notre témoignage ? Alors, je suis obligé, par manque de temps, de me limiter aux épîtres du Nouveau Testament, qui livrent de la manière peut-être la plus directe, c'est pour ça que je prends les épîtres, les enseignements normatifs pour la vie du chrétien et de l'Église. C'est là qu'on a les exhortations pour la vie du chrétien et de l'Église. Alors, que nous apprennent ces épîtres sur le rapport de notre vie chrétienne et de notre évangélisation ? Premier point, ce que j'appelle donc l'étrange silence des épîtres. Ce qui est, me semble-t-il, un aspect tout à fait symptomatique, pertinent, étonnant. Et c'est un étrange silence comparé au bruit que l'on fait de nos jours au sujet de l'évangélisation. Je quitte deux minutes mes notes. Je suis, comme on a dit, je travaille un peu dans l'édition. Alors, si on veut faire une étude un peu statistique de l'édition, il est étonnant de voir le pourcentage de livres qui sortent sur l'évangélisation Quand vous comparez, par exemple, ce nombre de livres au nombre de livres qui paraît sur la doctrine de Dieu, sur la Trinité, par exemple. Qui pourrait me citer un livre qui est sorti sur la Trinité ces dernières années? Alors, tout d'abord, le problème. Avez-vous déjà remarqué que les épîtres du Nouveau Testament adressées à des églises ne contiennent aucune exhortation à évangéliser? Si je me trompe, dites-le moi. C'est-à-dire qu'elles ne contiennent aucune invitation à, je cite le mot grec, euangelizomai, à évangéliser. Je prends ce mot, je transcris le mot grec, évangéliser. En connaissez-vous une? Alors ce silence devrait, me semble-t-il, nous surprendre. Nous qui vivons en un temps où l'accent est souvent mis sur l'évangélisation, hein, le mot qui est dans le Nouveau Testament, sur la nécessité pour tous les chrétiens d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples. Alors que les épîtres sont truffés d'exhortations qui explicitent le commandement de Jésus à aimer, il y en a pas mal. N'est-il pas étonnant que l'on n'y trouve aucune exhortation qui développe son ordre de evangelizomai, d'évangéliser les nations? Alors, une juste compréhension de ce silence des épîtres nous permettra de répondre à notre question de manière négative, en montrant ce que notre différence ne doit pas être, me semble-t-il, pour que nous puissions témoigner du Christ. Il n'est pas possible, par manque de temps, de faire ici une étude exhaustive du terme « évangéliser » dans le Nouveau Testament et en particulier dans les Épîtres. Alors ce terme est utilisé 55 fois dans le Nouveau Testament, dans 54 versets différents. On ne les trouve pas simplement dans 2 ou 3 versets. Ce sera un peu beaucoup d'ailleurs. Alors pour les puristes, dans le codex de Bèze, il se trouve même une 56e fois en acte 16, verset 17, mais non pas dans tous les manuscrits, seulement dans un manuscrit important. Alors je me bornerai à 3 remarques sur ce terme. Premièrement, contrairement à l'emploi très dilué du terme qui recouvre de nos jours de très nombreuses activités, évangéliser dans le Nouveau Testament, c'est de manière assez technique prêcher ou annoncer la bonne nouvelle. Ceci est d'autant plus évident que le Nouveau Testament emploie souvent comme synonyme du mot « euangelizomai » le terme, je dis en grec, kérusein, qui signifie proclamer une nouvelle à la manière d'un héros qui circulait dans les rues pour annoncer, pour proclamer une chose importante dans les rues de la ville. Les deux termes sont très souvent utilisés comme synonymes. Deuxièmement, deuxième remarque, le mot évangéliser, dans le Nouveau Testament toujours. Je ne parle pas de l'usage actuel du mot, suggère l'intervention d'un messager venant de l'extérieur. C'est ainsi que l'Écriture emploie le mot évangéliser pour signifier l'annonce de la parole de Dieu par l'ange Gabriel à Joseph, par un ange au berger de Bethléem. Il y a là une annonce, une proclamation, vient de l'extérieur. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des anges. Le mot est utilisé pour l'annonce de la parole de Dieu par Jean-Baptiste aux Juifs, par Philippe aux Samaritains, par Paul et Barnabas aux Juifs d'Antioche et de Pisidie, qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, par Paul et Barnabas aux païens de Lystre, ou par Paul aux chrétiens de Rome. Une intervention évangélisée est utilisée dans le contexte d'une intervention de l'extérieur. Et troisième remarque, je n'ai pas le temps de justifier, le mot évangélisé dans le Nouveau Testament, et en particulier dans les Épîtres, est réservé à des ministères. Paul très souvent l'utilise pour lui-même. Très souvent. « Malheur à moi si je n'évangélise », écrit-il. Et il justifie ce qu'il vient de dire en soulignant que l'évangélisation est une, je le cite, « charge » ministère qui lui a été confié. 1 Corinthiens chapitre 9. Pierre, quant à lui, réserve le terme à la prédication apostolique. Je cite un verset, le verset où il utilise ce mot. Maintenant, ces choses, l'évangile ou tout ce qui accompagne l'évangile, vous ont été annoncées par ceux qui ont prêché l'évangile, euangelizomai, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. 1 Pierre chapitre 1. Alors, un passage d'une épître de Paul qui, de manière significative, n'a pas été envoyé à une église, mais à un individu, réunit le contenu de ces trois remarques en quelques versets. Je vous le lis, c'est dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 5. Je vous les lis. Voilà ce que dit Paul à Timothée, pasteur, pourrait-on dire. Proclame la parole, Kérusso. Insiste à temps et à contre-temps. Reprends, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront leur oreille de la vérité vers les fables, ils se retourneront. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Vous avez là les trois éléments qui, je crois, accompagnent le mot évangélisé dans les Épîtres et dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, l'idée du ministère, remplis ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. Deuxièmement, c'est une prédication, une proclamation. Ce n'est pas évangélisé par la vie, par exemple. Prêche la parole. Troisièmement, hors contexte, prêche à temps et à contre-temps. C'est une responsabilité confiée à Timothée qu'il doit à tout prix remplir. Alors après ces remarques un peu techniques sur l'emploi du mot évangélisé, j'aimerais en souligner la portée pour nous et pour la question que nous nous posons. Ces diverses données bibliques auraient bien sûr bien des choses à nous enseigner sur le ministère tellement passionnant de la prédication de l'Évangile. Il me semble, entre autres, je le dis de façon un petit peu provocatrice, mais c'est pour vous faire réfléchir. Il me semble, entre autres, que l'évangélisation dans le sens néo-testamentaire du terme est l'œuvre de spécialistes, d'hommes appelés par Dieu à cette tâche, contrairement à ce que l'on affirme souvent. Ce qui devrait être profondément déculpabilisateur pour tous ceux qui, malgré leur fidélité au Seigneur, ne sont pas des gagneurs d'âme, comme on dit parfois. Alors, quant à notre propos, L'étrange silence des épîtres nous invite, me semble-t-il, à ne pas pousser les chrétiens à s'enfermer dans une différence à laquelle ils ne sont pas appelés. Cette différence, je l'appellerai, à défaut d'autres termes, je n'en ai pas trouvé meilleur, la différence du militant forcé. Étendre la compréhension néo-testamentaire de l'évangélisation à tous les croyants, en disant que tous auraient des petits bols, c'est leur inculquer un idéal de la consécration qui valorise la rupture sociale. C'est les encourager à intervenir hors contexte dans la vie de ceux qu'ils côtoient, pour leur faire la leçon, sous prétexte de leur annoncer l'Évangile. Ils ne sont pas doués. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas doués à la manière de Paul pour cela. Qui ne connaît pas, en effet, tel ou tel chrétien qui s'est aliéné les membres non-croyants de sa famille ou ses collègues de travail au nom d'un tel idéal de la consécration? Le danger de cet idéal de la différence du militant forcé me semble d'autant plus réel qu'il correspond à toute une psychologie. La psychologie des individus qui cherchent leur identité en se posant contre les autres. Très souvent, l'idéal de la différence du militant forcé, comme je l'appelle, va se refermer sur lui-même, sur cet idéal, et engendrer un idéal encore plus élevé qui justifiera l'idéal de la différence du militant forcé. Et cet idéal plus élevé, c'est l'idéal de la différence du persécuté. Pour expliquer, je dirais que ce genre d'attitude existe très certainement aussi au GBU. Je l'ai en tout cas connu moi-même, je ne veux pas trop mouiller le mouvement tel qu'il vit aujourd'hui, mais je l'ai en tout cas connu moi-même lors de mes années de militance au sein du mouvement, lorsqu'il m'était plus facile de faire un stand, de distribuer des tracts, de coller des affiches ou d'organiser des rencontres, que de prendre réellement part à la vie des autres étudiants non chrétiens, de me mêler à eux, de me mouiller avec eux, d'être dans le coup dans la vie étudiantine, à la cafétéria ou autre part. Et si parfois, j'en suis conscient aujourd'hui, je passais pour bizarre, pas trop j'espère quand même, mais je suis certain que j'ai été pour certains, auprès de certains camarades d'études, l'idéal de la différence du persécuté me permettait de ne pas me rendre compte qu'en fait, je leur cassais parfois les pieds. Faut-il être différent pour témoigner du Christ ? D'une telle différence, assurément pas, en tout cas de loin pas, tous, pour tous. Les données des Épîtres du Nouveau Testament se limiteraient-elles à cette réponse négative ? Loin de là. On va en voir une autre. Mais nous devrions, me semble-t-il, bien réfléchir à cette fausse conception de la différence. Je pense, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Je pense à, par exemple, cet ami qui, dans son travail, à son travail, on l'appelle le curé. Bon, parfois j'ai essayé de discuter avec lui. Il est sûr qu'il justifie son attitude. Les moqueries, le curé, tout ça. Par une différence de plus en plus marquée dans le travail. Il valorise ce qui, en fait, pourrait n'être qu'une source de mépris de la part des autres. Les Épîtres livrent une réponse positive aussi, qui est comme l'envers de la réponse tirée du silence des Épîtres. Je la résume en deux mots. Notre témoignage ne doit pas être hors contexte, pour la plupart d'entre nous, en rupture sociale, mais en situation, ancrée dans la vie. Ce qui posera le problème de notre différence chrétienne de manière beaucoup plus subtile, nuancée, délicate. Et je passe donc à la deuxième partie, un témoignage en situation. Tout d'abord, les textes. Il y a deux textes, deux passages des Épîtres qui doivent, me semble-t-il, principalement être invoqués. Le premier, je les cite dans la Tob, donc qui me paraît plus mieux rendre l'original. Donc, le premier se trouve dans Colossiens, chapitre 4, versets 5 et 6. Je le cite. Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens. Saisissez l'occasion. Ce qui a été mal traduit, me semble-t-il, dans l'ancienne seconde, je ne sais pas si il a été changé la colombe, par racheter le temps. Saisissez l'occasion. Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il le faut. Et le deuxième texte, dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 13 à 17, que je lis de nouveau dans la Tob. Je lis à partir du verset 13. Et qui vous fera du mal si vous vous montrez zélé pour le bien ? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez d'eux, de ceux qui vous persécutent, aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans votre cœur le Seigneur, le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le sujet de notre étude n'étant pas le témoignage du chrétien, mais son rapport avec la différence chrétienne, je me borderai à nouveau à quelques remarques qui me semblent utiles pour notre propos. Alors, premièrement, ces deux textes contiennent des exhortations adressées à tous les chrétiens, non pas à des personnes qui ont un ministère particulier. Ce sont donc ces textes qui doivent nous guider dans notre réflexion sur le témoignage chrétien en général. Deuxième remarque. Bien qu'adressé à des églises différentes et écrit par des auteurs différents, Paul, Pierre, écrit pour la même église, ces textes font preuve d'une témoigne d'une grande parenté. C'est étonnant. On y trouve des notions clés qui font partie d'un même champ sémantique, tourne autour des mêmes idées. Je le rappelle, dans Pierre, vous trouvez « Soyez prêts !» Colossiens, « Saisissez l'occasion !» C'est la notion de « qui vive !» chrétien est quelqu'un qui est sur le qui-vive. Dans Pierre, dans Colossiens, pardon, il est question de l'art de répondre. Dans Pierre, justifiez votre espérance. Sachez la défendre, le mot est fort, devant ceux qui vous en demandent compte. Dans Colossiens, toujours bienveillant. Dans Pierre, avec douceur et respect. Alors cette parenté suggère que nous avons affaire dans ces textes à une expression de la catéchèse commune des églises du 1er siècle sur le témoignage. Ce qui souligne leur importance. Nous n'avons pas là un petit texte qui même fait autorité parce qu'il est dans la parole de Dieu, mais qui serait perdu quelque part dans la parole de Dieu. Nous avons là des personnes étrangères l'une à l'autre, en tout cas qui n'étaient pas en contact constant, qui disent la même chose pratiquement avec les mêmes termes. C'est ainsi que l'on devait enseigner le témoignage et ce que ça implique, nous allons le voir, dans l'Église du 1er siècle. Et ceux qui le font n'utilisaient à dessein jamais le terme, par exemple, d'évangéliser, pour désigner ce qu'ils demandaient à tous les chrétiens. Dans cette catéchèse, le témoignage est avant tout conçu comme une réponse au questionnement de l'entourage. Une réponse au questionnement de l'entourage. L'apôtre Pierre fait peut-être allusion à des chrétiens qui ont à comparaître devant un tribunal à cause de leur foi. Parce que le terme « justifier » ou « défendre votre espérance » appartient au vocabulaire juridique. En grec, c'est le mot « apologia » qui a donné en français le terme « apologie ». C'est ce que l'on faisait au tribunal pour défendre sa cause. Mais l'expression peut également s'appliquer à des événements ordinaires, par exemple des explications devant des concitoyens intrigués et surtout mal disposés, agressant verbalement les fidèles. Le passage de Colossiens est beaucoup plus général. Il faut apprendre l'art de répondre. Sachez comment répondre. Il vise la vie courante, mais recouvre le même type d'attitude. Le témoignage est d'abord conçu comme une réponse au questionnement de l'entourage. Je fais juste une petite parenthèse, un peu hors contexte. Le fait que le témoignage soit avant tout conçu comme une réponse au questionnement de l'entourage ne devrait bien entendu pas pousser les croyants à la passivité. Je le dis pour ne pas être mal compris. Car ces passages soulignent que les chrétiens ont à être sur le qui-vive, même plus, à saisir l'occasion, à parfois prendre l'initiative. L'apôtre Paul le souligne d'ailleurs dans un autre texte où l'on retrouve un mot que Pierre utilise aussi, le même. C'est frappant. C'est dans Éphésiens 6, verset 15, que je vais vous traduire littéralement. « Mettez pour chaussure à vos pieds, non pas le zèle de l'évangile de paix, ou le zèle que donne l'évangile de paix, c'est « Mettez pour chaussure à vos pieds le fait d'être prêt pour l'évangile de paix. » Le fait d'être prêt. Celui qui est sur le qui-vive, prêt à tout moment, à répondre en parlant de son espérance, quand c'est dans le contexte. Mais l'idée centrale demeure, et c'est là que je crois nous approchons petit à petit d'une réponse plus générale à la question que vous m'avez posée. C'est par sa vie, par son comportement, par ses paroles, par sa façon de vivre ses relations avec autrui, ses passions, sa façon d'être en général, que le chrétien est appelé à susciter le questionnement des non-chrétiens. Un questionnement peut être imprécis, qui conduira le chrétien à saisir la balle au bon, il est sur le qui-vive. Mais un questionnement qui témoigne d'une ouverture, qui est nécessaire. Je donne une petite anecdote biblique pour juste montrer, par exemple, le genre de questionnement. Alors là, c'est pour l'apôtre Paul. Je crois que là, il a fait preuve de ce que nous devrions faire. C'est lorsqu'il est en prison. Vous savez, dans Acte 16, il est en prison, puis il chante des cantiques avec Silas. Il y a un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, tous les prisonniers sortent. Vous avez le geôlier qui se rend compte de ça, il se réveille, et le pauvre commence à voir tous les prisonniers qui se baladent. Et il va chez Paul, et il lui dit, alors c'est traduit dans nos versions, je ne comprendrais pas de cette façon-là, il ne lui dit pas « que dois-je faire pour être sauvé ?» Mais il voit Paul qui chantait, il l'a entendu, et qui dirige un peu tout ça, qui lui dit « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sauver ma peau ?» Imaginez ce que dirait notre ministre si on ouvrait les portes des prisons et que tout le monde sorte. Je ne crois pas que le directeur de la prison garde son poste. À l'époque, il risquait de perdre sa tête. Et Paul saisit la balle au bond, dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'était une parenthèse. Cette façon de concevoir le témoignage a, je crois, au moins deux conséquences ou montre deux choses qui sont fondamentales. Fondamentales. Le militant forcé, par son accent sur l'évangélisation, qui peut tourner à l'obsession, même en fac, c'est sûr que si on n'a pas le souci du salut d'autrui, on peut vivre à côté d'autres en s'en foutant, être insensible à leurs besoins. Mais si on a ce souci, cet amour et cette volonté d'être fidèle au Seigneur, et si l'on a constamment en tête « il faut », le grand danger, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. On va parler de façon artificielle. C'est l'hypocrisie par rapport à sa vie. On ne répond pas à un questionnement. Ce n'est pas quelque chose qui est le fruit d'une réalité que l'on voit, que l'on constate. C'est le fruit d'une contrainte où l'on se sent obligé. Et deuxièmement, je crois que cela conduira, l'hypocrisie étant l'attitude par rapport à moi-même, à autre chose par rapport à celui à qui je parle, c'est le manque de respect. Si le témoignage est une réponse à un questionnement, vous ne risquez pas de manquer de respect envers la personne à qui vous témoignez. Mais si c'est le fruit d'une contrainte, votre surmoi vous pousse à parler constamment, le fruit d'une culpabilisation, à cause d'un idéal de la consécration, très facilement vous manquerez de respect. Celui qui met l'accent sur sa vie chrétienne, celui qui recherche la qualité de la vie, de sa vie chrétienne. L'apôtre Paul dit « la recherche d'une bonne conscience, mais que ce soit avec douceur et respect en ayant une bonne conscience qu'il faut témoigner, répondre. » Celui-là va placer la priorité où elle est, dans l'être, avant de la placer dans le faire. Il y aura tout un processus qui ira de la sanctification du Christ dans le cœur, sanctifier le Christ dans vos cœurs, jusqu'à la bonne conduite, lorsque l'on prend le texte de Pierre. Ce qui produit une bonne conscience libre, une conscience belle, le grec dit les deux choses, qui permet de répondre en toute liberté. Le témoignage, tel que le conçoit donc l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, est avant tout une réponse au questionnement de l'entourage qui s'inscrit et qui permet alors aux chrétiens de le vivre avec une bonne conscience parce que c'est sa vie qui a suscité le questionnement. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, je ne sais pas si je m'explique bien, qui a produit la question. Une note, je crois que cela devrait, ça ne devrait pas nous conduire au scrupule. Celui qui refusera de parler parce qu'il considère que dans sa vie, les choses ne sont pas encore parfaites. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul le montrent très clairement en disant qu'il faut être prêt. Il faut être sur le qui-vive. Non seulement ça, l'apôtre Pierre utilise un mot très fort lorsqu'il dit « sois toujours prêt à justifier ». Il utilise le mot de la dette. Il a cette dette envers le non-croyant qui pose la question à cause de la vie du chrétien. Il a cette dette envers lui de lui expliquer pourquoi il vit ce qu'il vit. Ceci, bien sûr, tout ce que je viens de dire souligne l'importance de la vie du croyant. Si elle doit susciter des questions directes, indirectes, des attitudes d'intérêt, de quelqu'un qui recherche à garder le contact, le questionnement peut-être pas toujours direct. Mais si notre vie doit susciter, si elle doit susciter des questions, il faut qu'il y ait des raisons. Ce qui pose le problème de la différence chrétienne. Quelle est-elle ? Il faut que quelque chose marque celui qui pose la question. Alors je vous propose de préciser les choses à partir des données d'un Pierre, du contexte des versets que nous venons de voir. Et c'est donc la troisième partie, ce que j'appellerais donc la différence chrétienne, ou le problème de la différence chrétienne. Je n'étais pas là lorsque Jean Saldi a fait sa conférence. Je ne sais donc pas ce qu'il a dit. Peut-être, à certains moments, dans ce que je dirai, je reprendrai certains des éléments qu'il a pu dire pour les structurer ou les comprendre d'une autre façon. Je crois que ce serait intéressant, par la suite, de pouvoir en discuter. Vous qui l'avez entendu et qui savez ce qui a été dit. Dès le début du passage, du contexte dans lequel se situent les versets, l'apôtre Pierre souligne que les chrétiens sont appelés à se distinguer des non-chrétiens. Il y a un appel très net à la différence chrétienne. Au début de la seconde partie de l'Épître. Je vous le lis, chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que sur le point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, il soit éclairé par vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa venue. On pourrait dire que la différence chrétienne par laquelle l'apôtre Pierre introduit toute la seconde section de l'épître, qui contient le verset, ce témoignage, peut se diviser en deux parties. C'est une différence qui consiste en un exode intérieur. Je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles. L'être, en premier, la personne, l'être intérieur, qui va s'exprimer, qui doit s'exprimer à l'extérieur par une diaspora de la différence, pourrait-on dire. Ayez une belle conduite parmi les païens. Vous qui êtes étrangers, voyageurs sur la terre. Alors l'histoire montre tous les tâtonnements des chrétiens dans la mise en pratique de cette différence intérieure et extérieure. Il y a deux pôles que l'on peut repérer dans toute l'histoire de l'Église. On pourrait dire le pôle de la conformité et le pôle de la marginalité. L'on fixe en général l'apparition du pôle de la conformité à l'édit de Constantin, qui a reconnu l'Église comme religion d'État, et où l'Église et l'État, petit à petit, se sont unis. Il y a eu une collusion entre ces deux autorités. Et le pôle de la conformité a souvent été privilégié dans l'histoire de l'Église. Le pôle de la marginalité se retrouve parmi les mouvements minoritaires. Comme si ce pôle était valorisé par ceux qui avaient besoin de la marginalité pour exister. Aujourd'hui, dans le discours actuel, peut-être au GBU, on retrouve ces deux pôles. Certains diront, nous devons être pleinement dans la vie. D'autres diront, Maurice l'a dit ce matin, l'Église doit être une société alternative. Ces deux pôles, ces deux tensions, enfin cette tension, se retrouvent dans la vie de l'Église aujourd'hui. Alors je crois que l'histoire de l'Église nous enseigne à ne pas être présomptueux. Et n'imaginons pas qu'en une heure, nous pouvons donner des réponses certaines, globales, sur les choix à faire. Mais rappelons-nous que l'histoire de l'Église nous enseigne l'humilité. Et qu'il y a eu certainement de très grands chrétiens. Parmi ceux qui ont accepté le pôle de la conformité, jusqu'à un certain point en tout cas, ou ceux qui ont accepté le pôle de la marginalité. Je lis depuis quelque temps les écrits de Saint Bernard ou de Jean de la Croix. Ce sont des marginaux, très grands marginaux, qui pourtant ont bouleversé l'histoire de leur temps. Mais l'on peut aussi penser à des gens qui ont, comme Luther, qui, en tout cas, après un certain temps, lors de la guerre des paysans, a opté pour la conformité lorsqu'il a cautionné le massacre des paysans par l'autorité civile. Ces hommes n'étaient certainement pas de petits croyants. Comment nous situer entre ces deux pôles pour pouvoir témoigner du Christ ? Faudra-t-il vivre, grande question, en deux mondes, conforme au monde avec le monde et marginal dans l'Église avec les chrétiens ? En séparant de façon très forte l'engagement, la différence ou l'engagement du chrétien, la présence du chrétien, sa vie dans la société, de sa vie dans l'Église. Ou choisir délibérément la voie de l'aggiornamento, de l'adaptation au monde, et même la voie de l'adaptation de l'Église au monde, ou celle de ce qu'on appelle, un mot assez peu français, de l'alternativité. Que choisir ? La première épître de Pierre me semble nous livre deux clés importantes. Deux thèmes structurants dans ces passages, dans ce contexte des versets que nous avons lus. Deux thèmes reviennent à plusieurs reprises dans cette seconde partie de la première épître de Pierre. Le thème de la soumission, ou de la subordination, pour ceux que le mot soumission fait bondir. Et le thème de la consécration au bien. Alors je me propose de montrer que ces deux thèmes sont structurants dans la vie chrétienne. Ce sont eux qui vont marquer notre différence, qui définissent la différence chrétienne dans le monde. Je n'aime pas beaucoup le terme. Tout d'abord, le thème de la soumission. Alors ce thème, ou le mot « soumission » apparaît trois fois en 1 Pierre, chapitre 2, 11 à 3, verset 7, on retrouve au chapitre 5, et il y a d'autres mots synonymes qui se trouvent dans ces mêmes passages. Je vous lirai trois versets où on le retrouve, chapitre 2, verset 13. « Soyez soumis à toute institution humaine, à toute création humaine, à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur délégué pour lui, par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. » Deuxième verset, chapitre 2, verset 18. « Serviteurs, soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariâtres. » Chapitre 3, verset 1. « Vous de même, femmes, épouses, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Pour faire plaisir aux dames, je lirai le verset 7. « Vous les maris de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature la plus délicate de vos femmes. » La soumission, c'est un thème structurant qui entoure l'appel au témoignage. Comment Pierre développe-t-il ce thème dans ses passages ? Il fait appel à ce que l'on, les théologiens, ont coutume d'appeler à présent les codes d'état temporelles, qui étaient des sortes de listes, qui reprenaient différentes institutions sociales. Je vous l'ai lu, là vous avez le roi, la politique, le pouvoir, soyez soumis au roi. Un peu plus loin, serviteurs, soyez soumis au maître. La soumission dans le cadre, on dirait, des relations, non pas du travail, mais de la maison, avec le travail aussi. Et vous avez, dans ces codes d'état temporel, un troisième groupe, c'est le couple. Il est intéressant de se rendre compte que l'on retrouve ces codes d'état temporel dans les autres épîtres du Nouveau Testament, dans Colossiens, dans Éphésiens. Mari, esclave, vous connaissez les textes. On a donc là, de nouveau, affaire à quelque chose qui était commun dans les églises. C'était la manière dont on abordait le problème de la soumission. Que suggère cette existence de code et la soumission à laquelle l'apôtre appelle les chrétiens? Ces choses ont été comprises de plusieurs manières. Certains ont pensé que le Nouveau Testament accrédite l'idée grecque que le monde était organisé, le cosmos était organisé par une pensée intérieure qui mettait tout en ordre de façon très précise, chaque chose à sa place. Ce qu'on appelle cette théorie du logos stoïcien, que vous retrouvez dans des textes chrétiens très tôt, par exemple chez Clément de Rome. D'autres, et c'est le cas du livre de John Yoder, publié par cette maison d'édition dont on parle assez souvent ici, les presses bibliques universitaires, les PBU, pardon, les PBU, pensent que les apôtres faisaient simplement allusion à un état de fait. Il existait des institutions dans la société avec lesquelles il faut bien accepter l'existence. Et une troisième interprétation, c'est celle que je suivrai, c'est que l'apôtre Pierre encourage les chrétiens à accepter que la société dans laquelle ils vivent avec les non-chrétiens, avec les rois païens, les empereurs, avec les maîtres, même acariâtres, que cette société est marquée depuis la création par un certain ordre. Qui n'est pas un ordre dans le détail, mais Dieu a structuré le monde d'une certaine façon que nous sommes obligés, en tant que chrétiens, d'accepter, nous soumettre. Le mot « soumettre » en grec contient l'idée même d'ordre dans le mot « ordrier ». L'exhortation de l'apôtre Pierre au chapitre 2, verset 13, montre que la soumission n'est pas une soumission à un simple état de fait, me semble-t-il, mais que c'est une soumission beaucoup plus élevée. Soyez soumis à toute création humaine à cause du Seigneur. Ce que je comprends, à cause de sa création. Et la Genèse, si vous lisez les textes, contient l'idée d'un certain ordre structurant de la création. C'est le cas, entre autres, du couple. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il existe une structure. Et on voit que l'apôtre Pierre appelle les chrétiens au témoignage en se soumettant à cette structure. Ce qui me fait dire qu'il n'existe certainement pas d'idéal de la différence pour la différence dans le Nouveau Testament. Au contraire, nous avons là un encouragement à l'intégration, à l'acceptation des choses. Non pas à nous démarquer, mais accepter la réalité telle qu'elle est, dans sa structure voulue de Dieu. Je crois que là, j'aimerais juste souligner, point. Pour un chrétien, dont l'idéal spirituel est extraordinaire, est élevé, qui d'entre nous aime le péché ? Nous avons tendance à valoriser la différence au point de nier parfois les réalités créationnelles de Dieu. Nous n'avons pas une juste notion de ce qu'est la providence de Dieu. Dieu a créé le monde et nous vivons dans le monde qu'il a créé, qui est le nôtre. Il n'en existe pas d'autre. Et nous sommes appelés à accepter cette création. La nouvelle création ne sera peut-être pas tellement différente même de l'ancienne. Nous risquons de vivre dans l'illusion. Faut-il être différent pour témoigner du Christ ? Je crois que ce premier thème de l'épître de Pierre nous montre qu'il faut d'abord accepter la création telle qu'elle est. Et notre vie doit s'inscrire dans ce que Dieu a fait. Le deuxième thème de l'épître de Pierre est celui de la consécration au bien ou au beau. Le mot veut dire la même chose, qui revient alors à de très nombreuses reprises dans cette section de la première épître de Pierre. On le trouve sous diverses formes. Je vous donne quelques exemples. On trouve régulièrement l'adjectif beau ou bon. On trouve des oppositions dans le texte, malfaiteur, gens de bien, fais le bien, qui s'oppose à la méchanceté. On trouve l'opposition bon et doux, qui s'oppose à cariâtre. On trouve l'opposition se détourner du mal, être zélé pour le bien. Et l'on trouve surtout un verbe créé, pas par Pierre, mais créé à l'époque, très récemment, disons à l'époque de Pierre, un peu dans le siècle qui précède, c'est le verbe « faire le bien ». Ou l'adjectif « faisant le bien », qui est un adjectif très particulier en grec, alors qui revient régulièrement dans le texte. Chapitre 2, verset 15, verset 20, 3, verset 6, 17, 4, 19, 2, 14. C'est un thème constant dans l'Épître. Alors, que veut dire pour Pierre faire le bien ? Qui est certainement un thème éthique, auquel il exhorte les croyants. Je pense que l'on peut affirmer que pour Pierre, faire le bien, c'est en définitive accomplir la volonté de Dieu. Le chevauchement entre les deux perspectives, faire le bien, accomplir la volonté de Dieu, dans la première épître de Pierre, est très clair dans les versets que je vais vous lire. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté, mais agissez en serviteur, non pas du bien, mais de Dieu. Le gouverneur, selon ces textes, approuve ou châtie en fonction de la conception du bien civil, le bien commun à tous les hommes, qu'entretient le pouvoir politique. Mais au verset 15, que je viens de lire, intervient massivement la référence à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Cette volonté ne consiste pas seulement à réduire au silence l'ignorance des insensés, mais définit le bien. C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien. Les chrétiens ne sont-ils pas avant tout serviteurs de Dieu ? Le bien éthique, qui est ce deuxième thème structurant, surplombe, pourrait-on dire, celui de la soumission, comme un village qui surplombe la vallée. Il impose la différence chrétienne quand elle est nécessaire. Quand elle est nécessaire. Et c'est cette différence qui suscite le questionnement, la réaction des incrédules, la plupart du temps. L'apôtre Pierre nous donne deux exemples qui me semblent très significatifs. Tout d'abord, l'exemple des esclaves, qu'il a exhortés à se soumettre à leur maître, en respect d'une certaine structure d'autorité et d'incréation. Mais il donne l'exemple des esclaves, il leur dit qu'il pourrait leur arriver de souffrir par motif de conscience envers Dieu pour avoir fait le bien. Chapitre 2, verset 20. Cette soumission, qui est une acceptation du Dieu créateur et qui, dans sa grâce commune, maintient le monde le plus près possible du projet créateur, cette acceptation de la création peut pousser l'esclave à se démarquer au nom du bien qui est le fruit de sa réflexion de chrétien devant Dieu à la lumière de ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Et c'est là qu'intervient la différence chrétienne. Prenez l'exemple des épouses dont parle l'apôtre Pierre. Il les exhorte à se soumettre, comprenez-moi bien, bon, à leur mari, je prends le mot que Pierre utilise, même à ceux qui sont durs parce qu'ils ne sont pas chrétiens et qui refusent la foi de leur épouse. Et pourtant, à la fin du texte, Pierre les appelle à faire le bien, à faire le bien, et les encourage à ne pas se laisser troubler par aucune crainte. Parce qu'il est vrai que cette soumission générale qui correspond à la structure créationnelle du monde va trouver des exceptions à cause du bien, de l'éthique chrétienne, qui va amener la croyante au nom du Rédempteur à se démarquer de son mari et je dirais à enfreindre la règle de la soumission. C'est là que se situe la différence chrétienne. C'est cette consécration au bien parmi les hommes. Il est intéressant que l'apôtre Pierre, qui utilise le mot sainteté, par exemple, dans les premiers chapitres de l'Épître, ne l'utilise plus par la suite parce qu'il se situe dans cette réalité générale du bien social, du bien dans la société, mais qui va être coloré pour le chrétien par un absolu. C'est la volonté de Dieu, serviteur de Dieu. On pourrait dire que la consécration du chrétien au bien est une reconnaissance profonde de Dieu créateur, de Dieu rédempteur, de Jésus-Christ. Seul le chrétien peut avoir une conception juste, entre guillemets, le péché agit aussi en lui, de ce qu'est le bien. Ce qui pourra bien sûr amener le chrétien à souffrir, à l'exemple de Jésus-Christ, je ne cite pas le texte pour ne pas alourdir ce que je dis. Il me semble, et j'aimerais résumer ce que je viens de dire dans cette problème de la différence, que pour bien comprendre ce à quoi nous sommes appelés, il nous faut avoir une bonne conception du monde, de la réalité telle qu'elle est. Et je crois qu'il existe trois thèmes fondamentaux. La création, le péché et la rédemption. La création nous amène à revendiquer le monde pour nous-mêmes. Le monde n'appartient pas à ceux qui rejettent Dieu. J'aimerais prendre un exemple un petit peu choquant. Mais je dirais que je vois parfois le monde comme la France en 40, qui est envahie par des troupes d'occupation. Nous pensons souvent d'une autre manière. Le monde est au mal, et moi je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde du péché. Mais la création est à moi, tout est à vous, vous êtes à Christ, le monde est à vous. L'apôtre Paul. Et dans ce sens, nous devons être pleinement de la création. Il est vrai que le péché agit en nous et que ça doit nous pousser à beaucoup d'humilité. Parce que les troupes d'occupation ont réussi à occuper une partie de notre être. Deuxièmement, le péché. Le péché est ce qui pervertit toute chose. Le péché est ce qui transforme la soumission à la structure de la création en moyen d'exploitation, en moyen de souffrance, ce que le Christ a connu. Et c'est grâce à la rédemption que nous pouvons avoir une notion juste du bien. Nous sommes appelés à sanctifier le Christ dans notre cœur, dit l'apôtre Pierre, et je crois que cela crée l'unité dans notre approche du monde. C'est sous l'autorité du Christ, du Créateur, Seigneur, Rédempteur, que je vis la création, la révolte et la rédemption. Et que je peux éclairer, que mon comportement peut être éclairé par le bien que j'apprends à connaître, par la fréquentation du Seigneur. Alors je conclue. Témoigner, faut-il être différent pour témoigner ? Je crois avoir été assez clair. Ce n'est certainement pas la différence du militant forcé. Ce n'est pas non plus la différence du chrétien qui se considère non solidaire des autres hommes à la lumière de la création du Seigneur, malgré la création du Seigneur. S'il existe une différence à laquelle nous sommes appelés, il n'y en a qu'une. C'est celle qui nous amène à réagir de manière différente face au péché, à cause de la rédemption de la création que nous attendons en Jésus-Christ. Et cette tension que nous connaissons entre la soumission à la création et le besoin de nous démarquer de ce monde au nom du bien, cette tension est une tension qui se projette dans l'avenir. C'est la tension que nous connaissons parce que Dieu est le Seigneur de la création, qu'il a déjà racheté, il nous a déjà rachetés. Mais tout ce qu'il va faire n'est pas encore accompli. Un jour viendra où nous nous soumettrons pleinement sans avoir besoin de nous démarquer lorsque nous serons dans la nouvelle création du Seigneur. Je finirai en revenant à ce que j'ai dit dans le premier point. Faut-il être différent pour témoigner du Christ ? Voilà la réponse que je donnerai pour tous les chrétiens. Et je crois qu'il serait nécessaire qu'au sein d'un mouvement comme le GBU, ou au sein de l'Église, il y ait plus d'hommes qui soient appelés par le Seigneur à consacrer leur vie à cette différence beaucoup plus forte à laquelle ils sont obligés de se consacrer en étant des évangélistes, des hommes et des femmes capables, doués par le Seigneur, d'amener de façon hors contexte d'autres personnes à sa connaissance. Mais cela est un ministère spécialisé. Et cela dépend du Seigneur d'en appeler quelques-uns à ce type de ministère. J'arrête là.
Merci Jacques. Est-ce qu'il y a maintenant des questions ? Nous avons 20 minutes, une demi-heure en poussant. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Hubert ?
Dans un des premiers textes que tu as lus, qui se trouve dans la première à Timothée, il était dit... Donc, il était insisté sur le fait que donc, ces prédicateurs étaient appelés à annoncer l'Évangile, quelles que soient les conditions, favorables ou non. Par la suite, donc, tu as mis en avant le fait qu'il faut tenir compte d'un certain contexte. Alors, est-ce que cela veut dire que pour toi, ce sont ces personnes spécialement appelées à annoncer l'Évangile tel que tu l'as précisé dans ta première partie, qui doivent le faire en toutes circonstances, et le chrétien qui n'a pas ce ministère spécifique, qui doit ne pas le faire en toutes circonstances.
Je crois que tu as bien compris ce que je voulais dire. Je le pense. C'est bien. Je le pense. Je le pense. Et je crois que, bon, je redis ce que j'ai dit. Je pourrais donner mon exemple. J'étais engagé dans un travail de création d'église. Et au début, aussi dans un travail de création de groupes locaux pendant assez longtemps. Et heureusement que je l'ai fait en collaboration avec des personnes, ou une ou deux personnes, qui étaient douées pour ce genre de choses. Parce que je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne pense pas, j'espère que ce n'est pas par manque de volonté de servir Dieu, mais je n'arrive pas à venir chez quelqu'un comme ça, du but en blanc, pour lui annoncer l'Évangile. Je crois qu'il y a là des dons spéciaux que le Seigneur donne. Et je pense que c'est une des caractéristiques de quelqu'un qui est appelé à un ministère d'évangéliste à plein temps. Même de pasteur. Je pense que, d'après ce que j'ai vu dans l'expérience d'amis qui ont eu des crises de vocation, par exemple, ou des gens qui se sentent très mal à l'aise dans leur ministère pastoral ou dans l'Église, très vite, on vient sur ces points. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas, ce n'est pas leur truc, de venir chez les gens pour tout à coup leur parler de l'Évangile de façon un peu hors contexte, même chez des gens de l'Église, des paroissiens, des fidèles de la paroisse, qui ont extrêmement beaucoup de difficultés à faire cela. Et cela crée, chez certains, vraiment des crises de vocation, ce que je comprends très bien. Je crois que c'est une des caractéristiques de ceux que le Seigneur appelle à ce type de ministère, cette capacité de communiquer hors contexte et en contexte. D'où la nécessité, je pense, de déculpabiliser les chrétiens qui n'arrivent pas à le faire, parce qu'il y a un langage culpabilisateur dans ce domaine. Je vais utiliser un langage très, très évangélique de mon milieu. Je crois qu'un chrétien peut être fidèle pleinement devant le Seigneur sans jamais amener quelqu'un à Jésus-Christ. Je ne vois pas dans cette nécessité ou dans le fait d'amener quelqu'un à Jésus-Christ une composante nécessaire de la fidélité à Dieu. Je ne la vois nulle part dans le Nouveau Testament. D'où la nécessité de se déculpabiliser. Et ceux qui connaissent une réelle déculpabilisation dans ce domaine, souvent, parfois, deviennent des personnes très libres dans le témoignage, qui ont une capacité de témoigner beaucoup plus forte. Oui, alors, les mots sont piégés. J'ai un peu de difficulté à la fin parce que le temps passe, t'as passé, donc j'ai pas eu le. J'aurais bien aimé beaucoup plus développer. Les mots sont piégés, et lorsque l'on parle de structure créationnelle, de structure de la création, tout de suite, on va avoir en tête, en tout cas pour ceux qui sont un peu sensibles à ces questions ou qui les connaissent, plein de conceptions théologiques. De la création. Alors on va vous parler d'une structure hiérarchique avec l'analogie de l'être, de toute la création dont l'État, entre autres, et l'Église à sa place, et le sommet, comme une sorte de pyramide, qui justifie alors le moindre groupe au sein de la société à l'intérieur d'une structure très figée. C'est la conception thomiste de la société, de l'Église, disons, du monde. D'autres auront une conception extrêmement absolutisante des différents cercles de la création. L'État, le travail. Et l'on va, il y aura une tendance à absolutiser ces réalités. Alors je crois qu'on est bien obligé d'utiliser les mots, et je crois que le mot « structure » et le meilleur mot. Alors, j'aimerais expliquer ce que je veux dire. Le premier indice dans la Genèse de ce que j'appelle la structure, c'est la présence de la loi dès la création. Alors, contrairement à ce que l'on dit souvent, c'est en tout cas mon optique des choses, la loi n'est pas simplement intervenu quand il y a eu des dégâts et qu'il fallait mettre un petit peu les choses en ordre. Si vous étudiez Romains 5, tout le raisonnement de Romains 5, il y a eu Adam, puis il y a eu Moïse, la loi est intervenue plus tard, mais s'il y a la mort à exister entre Adam et Moïse, c'est qu'il devait bien y avoir une forme de loi. Et qu'est-ce que c'était ? Cette loi, c'est simplement la loi que l'on trouve dès la Genèse, c'est « si tu manges de cet arbre, tu mourras ». Si tu recherche une connaissance autonome de moi dans tous les domaines de la vie, tu mourras. Et la loi de Moïse est une sorte d'explicitation extrêmement importante, imposante, de cette loi primordiale de Dieu. Et les théologiens ont coutume de dire, en tout cas dans certaines familles théologiques, que la frontière entre Dieu et l'homme, c'est justement la loi donnée par Dieu à l'homme. Celle qui met l'homme à sa place, qui le structure au sein de la création de Dieu par rapport à lui. Alors, cette loi, on la retrouve dans la Genèse. On retrouve la loi du jour et de la nuit, Genèse 1. On retrouve la loi des astres, les étoiles, l'astre, le grand et la petite, la blanche et la chaude, enfin, le soleil et la lune, bon, qui étaient destinés à éclairer le jour et la nuit, à marquer les fêtes. Bon. La loi du sabbat, septième jour. On trouve donc une structuration qui devient de plus en plus présente dans la Genèse. Et, entre autres, on trouve un rapport de l'homme à l'animal, dans Genèse 2, et on retrouve un rapport de l'homme d'Adam à Ève, de l'homme à la femme. La femme a été tirée de l'homme et non l'homme de la femme. Mais l'homme a besoin de la femme pour se reproduire. Il y a là, donc, dans le rapport de priorité dans le temps, le reste de la Bible en déduit une structure, un rapport qui doit gérer la création. C'est déjà dans la Genèse et dans les premiers chapitres avant la chute. Alors, qu'est-ce qu'a fait la chute ? La chute, telle que je le comprends, hein, c'est de nouveau, je crois que c'est... La chute, dans ma façon de comprendre, n'aurait pas imposé à la création informe une structure inexistante auparavant, qu'explicite la loi, mais aurait, à cause de la coupure entre Dieu et l'homme, fait de cette loi structurante de la vie, non plus un chemin de vie, mais un chemin de mort. Ce qui, avant la chute, était le garde-fou de la vie, il pouvait manger de l'arbre de vie, mais non de la connaissance autonome du bien et du mal. Ce qui devait permettre l'épanouissement de la vie, la structuration de la création, avant la chute, est devenu chemin de mort parce que l'homme est incapable de l'accepter, de s'y soumettre. Il y a une incapacité existentielle des hommes à se soumettre pleinement à la loi de Dieu. C'est tout le raisonnement de Paul, je crois. La loi n'est pas mauvaise, elle est sainte, parfaite, mais à cause du péché de l'homme, elle produit la mort. D'où la nécessité d'une autre voie de salut, la grâce, qui nous libère de notre statut en Adam, nous ne sommes plus sous la loi, et qui nous fait connaître Dieu. C'est ce que j'essaie de développer un peu à la fin, en montrant que le chrétien fait pleinement partie de la création de Dieu. Et il vit avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Lui-même sent en lui une certaine rupture par rapport au projet créationnel de Dieu, puisqu'il est pécheur. Bien. Alors, il y a deux façons de concevoir la situation du monde aujourd'hui. Il y a ceux qui vont radicalement séparer l'Église et le monde en disant que le Seigneur est uniquement Seigneur dans l'Église et seul le chrétien peut faire le bien et peut, d'une certaine façon, vivre la création de Dieu, alors que le non-chrétien est complètement laissé à lui-même, il est dissous de l'esclavage du péché, du diable, c'est le monde du mal. Alors je crois que là intervient ce que la Bible appelle la providence de Dieu, la grâce commune de Dieu. Toute l'Écriture, me semble-t-il, dit que l'homme est incapable de faire le bien par lui-même. Mais des textes en pagaille montrent que Dieu intervient dans la vie même des non-chrétiens pour préserver une certaine notion de bien. C'est-à-dire que lorsque nous réfléchissons de manière éthique avec des non-chrétiens, j'essaie d'expliquer. M'arrêtez si vous ne comprenez pas. Hein, ce que je dis vous semble bizarre. Lorsque nous réfléchissons avec des non-chrétiens, il y a deux façons de faire. Où l'on dit, d'un point de vue éthique, prenons l'exemple, les grands, je sais pas moi, le code de la nationalité en France. Bien. Je ne vais pas développer la chose, mais une question qu'on peut discuter avec des non-chrétiens, qu'il faut discuter avec des non-chrétiens. Il y a deux façons de voir les choses. Ou je dis, de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre ce que dit Dieu, donc je me soumets à leurs présupposés épistémologiques, à leurs idoles, pourrait-on dire, à leurs notions fausses, et j'essaye de faire avec, simplement, en me mettant à leur niveau et en acceptant leur base. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Ils ne sont pas chrétiens. Ou je dis, je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce, intervient jour après jour dans le monde des pécheurs. Et qu'il leur donne de comprendre une certaine notion du bien, certains éléments du bien, du vrai, du juste, du beau. Et donc, je peux être convaincu que si je viens en tant que chrétien avec des arguments valables, en me mettant au niveau des gens que je côtoie, et en ayant une argumentation, c'est pas verset après verset, mais une argumentation qu'ils peuvent comprendre, que je peux les amener à accepter en fait une grande partie de ce que nous enseigne l'Écriture, même s'ils ne reconnaissent pas l'origine de ce bien. Alors je crois que c'est cette façon positive qu'a eu l'apôtre Paul, par exemple, dans Acte 14, lorsqu'il est arrivé à Lystre, semble, et qu'il dit à des païens qui adoraient des idoles, que leur dit-il ? Vous êtes tous dans l'erreur, vous n'avez rien compris, vous adorez des idoles, il faut tout changer. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit : je viens vous annoncer de Dieu qui vous donne la pluie en sa saison, qui vous donne de la moisson et qui remplit vos cœurs de joie et de bonheur. Ça montre que Paul était convaincu que la joie d'un non-chrétien était de Dieu. Si elle était, autant, disons, si elle était juste et bonne. Je prends notre exemple. Des couples non-chrétiens qui s'aiment. Exemple. Moi, combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire « Ah oui, mais ils ne s'aiment pas comme il faudrait. » Puisque ça leur semble pas normal que des non-chrétiens puissent s'aimer comme des chrétiens.